invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Adrien Dumas est avec nous, le directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Grégoire.
Christian Parizeau nous accompagne également, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Et Alexandre Drabovitch est avec nous également, le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Grégoire.
Le 18 septembre dernier, la réserve fédérale américaine baissait ses taux de 50 points de base. Le 10 ans américain avant cette décision était à 3,70%. Un mois après, ou quasiment, on se retrouve avec un 10 ans américain à 4,2%, 4,20% autour aujourd'hui, et un S&P sur la période qui a progressé de 4%. Est-ce qu'on peut revenir sur cette séquence, expliquer pourquoi les taux longs, notamment, sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la baisse de taux directeur de la Réserve fédérale américaine, Alexandre ?
Bah, moi, j'y vois en fait finalement deux explications assez simples. La première, c'est que depuis l'été où on s'est vraiment inquiété sur l'économie américaine, notamment sur le front de l'emploi, on a quand même une amélioration à la fois des chiffres du chômage qui finalement montrent que l'économie américaine va bien. On a même eu le taux de chômage qui est repassé de 4,25 à 4,05. Donc on est sur les décimales, c'est vrai, mais néanmoins, c'est une belle amélioration. Première chose, l'emploi s'améliore. Deuxième chose, même les ventes au détail se sont améliorés. Donc on voit bien que finalement que le consommateur américain se porte plutôt bien. On a toujours cette résilience au niveau de la consommation. Et puis quand on regarde aujourd'hui les prévisions du PIB pour le troisième trimestre qui vont bientôt sortir, on est pratiquement à 3%. Oui. Donc on est quand même très très loin d'une situation de peur de récession. Donc finalement, peut-être que le marché était allé trop loin dans son pessimisme et donc dans son anticipation des baisses de la taux Fed. Parce que finalement, la Fed n'a jamais bougé dans l'histoire. Elle a toujours dit que ça sera entre 3 et 4 baisses. Mais le marché est allé à dire bah non, les taux vont aller en dessous de 3% fin 2025. Et puis, deuxième effet, il y a un peu plus récent, c'est la remontée dans les sondages de Trump. Et là, sur l'histoire de Trump, le marché joue un petit peu ce qu'on appelle la réflation. C'est-à-dire un peu plus d'inflation avec peut-être une reprise économique derrière. Et donc, ça doit se refléter, évidemment, un peu plus dans les taux longs. C'est pour ça qu'on a vu sur la courbe des taux une repentification cette fois-ci, mais qui s'opère par les taux longs. Donc, on a un système d'équilibre. Maintenant, si on fait un parallèle historique entre les élections en 2020.
Oui, c'est ça. Celle de 2020, pardon. OK, voilà. Oui.
C'est que 6 mois avant, 6 mois après l'élection, les taux longs étaient remontés de 100 BP. Donc finalement, on a fait la moitié du chemin aujourd'hui. Si toutefois la trajectoire se confirme avec une victoire Trump, le marché évidemment s'ajuste ou peut-être qu'on a plus d'inquiétude aujourd'hui sur les taux longs que sur la trajectoire boursière.
Ah ouais. Bon, le marché et la Fed sont réconciliés aujourd'hui de ce point de vue-là ou pas encore, enfin sur les baisses de taux encore à suivre potentiellement de la Réserve fédérale américaine. Alors, le marché s'est réajusté au message de la Fed ou est-ce qu'il y a encore un hiatus ?
Je pense qu'il s'est réajusté aujourd'hui. Hein, le marché s'est réajusté à peu près à 3,5 fin 2025.
D'accord.
C'est également nos anticipations chez Indosuez. On avait même plutôt accentué nos baisses de taux pour 2025 à 3,5 mais pas aller jusqu'à 3% justement parce qu'on est toujours sur un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie, voire même un redécollage de l'économie américaine. Ouais. Hein, donc là, c'est également quelque chose qu'il faut surveiller. Je pense que de manière générale, le marché a beaucoup hésité entre l'atterrissage en douceur et un atterrissage dur.
Ouais.
Mais on voit aujourd'hui se dérouler potentiellement de plus en plus un scénario de non-atterrissage.
No landing,
redécollage, je ne sais pas comment on peut le dire en français. Et je pense que globalement, beaucoup d'agents, d'économistes, de stratégistes resteront encore pessimistes sur les perspectives américaines et que le marché n'est pas réellement positionné aujourd'hui dans cette configuration finalement en économie américaine comme en début 2023.
C'est-à-dire
qu'on a des attentes qui sont très très basses en début d'année et puis finalement l'année avance et puis on se rend compte que tout va bien et le marché doit se réajuster à cette réalité.
La dernière fois qu'on est passé par cette idée ou ce narratif de no landing, alors c'était en première partie d'année 2024 là, Alexandre, on a vu des taux américains, des taux longs monter jusqu'à 4,70. Hein,
4,7.
C'est ça, hein,
tout à fait.
C'était le point haut de l'année.
On a fait leur tour.
Quand on avait effacé toutes les baisses de taux de la Fed et que certains commençaient même à imaginer que le premier ou le prochain mouvement de la Fed pourrait être une hausse de taux. On a eu cette petite discussion à un moment dans le marché.
Ouais, alors là, je pense qu'aujourd'hui, on en est très loin.
D'accord, on ne revient pas à ce niveau de discussion.
Maintenant, c'est plutôt de combien la Fed va pouvoir baisser. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que quand elle était à 5,5, elle était de toute façon trop restrictive. Quand on regarde l'inflation aujourd'hui, même à ce niveau actuel, elle est encore restrictive. Et je rappelle que la Fed a un double mandat, elle a dans ses statuts, elle le dit, c'est maximiser l'emploi avec une stabilité des prix. Mais maximiser l'emploi vient en premier.
Christian, qu'est-ce qui se joue là sur les marchés obligataires en ce moment entre la décision de la Fed le 18 septembre dernier et évidemment l'élection présidentielle du 5 novembre ?
Non, ça a été dit, c'est-à-dire que les statistiques américaines nous ont surpris. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on était sur le mois de juillet qui était un peu en deçà des attentes, avec des révisions à la baisse de l'emploi qui avaient été assez importantes de la part du BLS, parce que le BLS aime bien réécrire un peu les histoires et donc on avait des éléments assez négatifs. Ce qui a fait penser à certains membres du FOMC, a priori, hein, du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine, ça leur a fait même penser qu'il y avait un risque de retournement du marché de l'emploi, hein, et c'est ce qui explique en grande partie cette précipitation d'une baisse de 50 points de base. Alors, ils sont pas seulement responsables de la remontée des taux, c'est surtout avant tout les indicateurs économiques qui restent très forts aux États-Unis, il faut quand même le souligner. C'est peut-être pour ça aussi que les marchés actions réagissent si peu à cette remontée des taux, parce que si je vous dis que la croissance est plus forte, même si les taux remontent, c'est pas du tout la même chose si je vous dis qu'il y a un ralentissement et que les taux montent. Là, on n'est pas du tout sur le même effet en termes de valorisation pour les marchés. Après, il y a quand même un élément qui est quand même aussi un élément de soutien, quoi qu'il arrive, pour les marchés actions face à cette remontée des taux, c'est le fait que la Banque centrale américaine maintenant doit prendre en compte une inflation beaucoup plus faible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a des taux réels qui ont beaucoup remonté depuis... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des taux directeurs, même baissés de 50 points de base, sont beaucoup plus élevés en termes réels qu'au début d'année. Donc ça permet quand même de dire que la Banque centrale n'a pas besoin de remonter les taux. Ce qu'on n'avait pas au début d'année, parce qu'au début d'année, si on avait eu une réaccélération de l'économie et de l'inflation, on pouvait se dire qu'à ce moment-là, la politique monétaire, ça faisait baisser les taux réels, n'était pas assez restrictive, on pouvait mettre. Là, on n'est plus du tout dans cette optique. Au pire, il faut rien. Si vous êtes vraiment très boule pour l'économie américaine, tant que l'inflation ne marque pas de reprise très marquée, et je ne parle pas de l'inflation globale, je parle plutôt du noyau dur, de ce qui est vraiment lié à l'équilibre offre-demande, tant qu'on n'a pas de réaccélération de l'inflation, il n'y a aucune raison pour que la Banque centrale remonte ses taux. Donc, pour l'instant, ça donne aussi une bonne visibilité. Alors, le seul bémol...
On peut imaginer un stop and go dans le cycle de baisse de taux de la Fed.
Ils y étaient là-dessus il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, ils avaient dit, on baissera les taux, pas forcément de manière continue, progressive. La BCE était aussi sur ce côté-là, mais la BCE, là, est en train de... On voit que les plus colombes sont sur... Maintenant, ils nous reparlent, sans vraiment le prononcer, le mot de déflation. Donc, la BCE est un peu plus inquiète que la Banque centrale américaine, parce que ça a été dit, 3% de croissance. Est-ce que vous vous inquiétez sur la croissance quand vous avez 3? Alors, après, est-ce qu'on ajuste? C'est nécessaire, parce qu'il ne faut pas laisser les taux réels trop élevés et casser, risquer de casser la machine. Mais ça veut dire qu'on va rester au-dessus, entre guillemets, du taux neutre. Alors, toute la question, quel est le niveau du taux neutre? Alors ça, c'est un gros débat. Ils nous l'ont remonté parce qu'il était à peine à 2,5 il y a encore quelques temps. Maintenant, sur le dernier set,
2,9.
On a 2,8.
2,8.
On est à 2,8. Hein.
Pour moi.
Mais il y a encore un membre hier qui nous a dit qu'on pourrait même dépasser les 3.
Hein, c'est ça.
Taux neutre. Donc ça veut dire que plus on se rapprochera du taux neutre, plus il y aura un débat. Mais ça, on est à 5. Donc on a encore largement des baisses à attendre sans trop de risques. Encore une fois, la plus mauvaise nouvelle, ça serait si l'inflation noyau dur serait accéléré. Mais tant qu'on est dans ce process-là, la Banque centrale peut relativement baisser.
Alors après, et accompagner donc la baisse de l'inflation.
Après, il faut quand même... Je mettrais juste un petit bémol sur les taux longs. Si les taux longs commencent à remonter beaucoup trop rapidement, n'oubliez pas que l'économie américaine est quand même très sensible aux taux d'intérêt, notamment l'immobilier, et notamment ça pourrait aussi entraîner quand même des effets... Tout dépend de la réaction des taux longs. Mais si c'est trop violente, on aura de nouveau des anticipations quand même assez négatives sur l'économie américaine. Mais pour l'instant, c'est largement supportable ce qui s'est passé. Il ne faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme, c'est un peu trop tôt.
On n'a pas encore revu 5% sur le 10 ans américain. 4,20, ça reste un monde connu pour les investisseurs aujourd'hui. Le rôle de Trump dans tout ça, dans cette baisse des marchés obligataires et cette remontée des taux
Moi, il me semble Adrien. Très important. J'entends effectivement que les indicateurs économiques américains étaient plutôt bons. L'indicateur de surprise économique, effectivement, est en hausse régulière depuis le mois de juillet, ça c'est sûr. Mais on est quand même passé d'un scénario où on anticipait un sweep démocrate à un sweep républicain qui est d'une probabilité assez importante. Et avec entre-temps, quand même, Donald Trump qui a tenu des propos sur le protectionnisme, protectionnisme un peu nouveau. On connaît le Trump protectionnisme vis-à-vis de la Chine, en tout cas avec un ennemi déclaré qui est la Chine. On l'a entendu de manière très véhémente sur l'Europe, sur le Canada, sur le Mexique, qui sont quand même des partenaires économiques importants des États-Unis, et avec des risques, j'allais dire, inflationnistes importants si on remet en cause un peu les accords commerciaux qu'on a avec ces pays-là. Donc oui, je pense que ça a clairement accentué la trajectoire sur les taux. Je rappelle que dans l'histoire des 30 dernières années, il n'y a eu que deux sweeps républicains. Hein,
vague rouge en l'occurrence,
républicaine. Le deuxième mandat de George Bush fils et le premier mandat de Donald Trump. À chaque fois, c'est 50 bips de taux minimum sur les 6 premiers mois de hausse sur les 10 ans. Donc, je ne sais pas quel sera le résultat et je ne sais pas comment réagiront les marchés le 6 novembre. Mais des taux, le 10 ans américain qui réagit assez violemment à un sweep rouge le 6 ou le 7 novembre, ça serait un scénario pas tout à fait.
Sur quelle considération ? C'est les tarifs en premier lieu, toute la sphère économique s'accorde pour dire que des tarifs, c'est inflationniste par nature.
C'est inflationniste. D'accord. Une politique migratoire contrôlée, c'est aussi inflationniste. Donc ça apporte effectivement un nouveau scénario qui n'était clairement pas celui qu'on avait en tête effectivement il y a 2 mois, où on avait un candidat démocrate plutôt en avance et pas ces débats autour effectivement. De toutes ces politiques inflationnistes. Donc ça change fondamentalement quand même la perspective sur les taux à court et moyen terme.
C'est vrai que les dernières attaques, alors c'était la semaine dernière, il était à l'Economic Club de Chicago, je crois, retransmis, rediffusé par Bloomberg. Il parle, moi je l'ai entendu beaucoup parler, et comme vous dites, de l'Europe, des Mercedes allemandes, etc. Enfin, il revient sur cette obsession de voir trop de Mercedes sur la 5e avenue à New York. Le Mexique, s'il faut mettre des tarifs jusqu'à 2000%, il n'y aura pas une voiture assemblée au Mexique chinoise qui passera la frontière. Et même pour être bien dans le monde de Trump, il le dit aussi clairement que ça. C'est-à-dire, nos alliés ont plus profité de nous sur le plan commercial que nos ennemis.
Bon. Oui, non, c'est une vraie posture. Alors après, on connaît Donald Trump, hein, il a des mots toujours très forts, et puis après, on arrive à quelque chose d'un peu plus pragmatique. Ça a été quand même sa méthode entre 2016 et 2020. En tout cas, là, quand on pose fondamentalement les faits, il y a quelques estimations qui ont été faites. On estime que l'impact sur le BPA aux États-Unis, ça pourrait être de l'ordre de 3-4% de ces mesures tarifaires. Et là, par contre, on a les impacts potentiels sur la trajectoire d'inflation, et les économistes qui parlent de 60, 70 bips, 80 bips supplémentaires sur le 10 ans. Donc, c'est pas neutre.
Ouais. Et donc, pour le marché action, ce sera pas forcément une bonne nouvelle. 2016 avait été au-delà des premières heures, un peu agité, le marché actions avait trouvé ensuite un sens assez directionnel à la hausse. Quoi.
Tout à fait. Après, c'est aussi beaucoup de relatif. Hein. On a, dans la même période qu'on analyse là depuis le mi-septembre, on a quand même un marché américain qui a nettement superformé tous les autres marchés, avec en plus un dollar qui s'est renforcé. Donc l'Europe a pris du retard, le Japon a pris du retard. On parlera de la Chine, il y a eu un peu d'embellie, mais dans l'ensemble, ça a pris du retard par rapport au marché américain. Donc on voit bien cette prépondérance de aux États-Unis, on va mettre tout en place pour relocaliser, recréer une dynamique, accentuer le Make America Great Again qui a quand même donné de bons effets entre 2016 et même qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce que c'est très négatif pour les actions américaines à court et moyen terme que les taux et cette politique très protectionniste soient mises en place? La question est ouverte.
Est-ce qu'on est toujours dans l'idée que l'exceptionnalisme américain permet tout, permet encore Trump demain à la Maison-Blanche avec potentiellement un congrès républicain, ou est-ce qu'il y a quand même des limites à cette idée-là pour le marché aujourd'hui, Alexandre?
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, sur l'histoire des tarifs, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'annonces. Je pense que Trump aime évidemment choquer l'opinion et faire un peu le buzz hein, sur les réseaux. Là-dessus, il est très, très bon. Mais il y a quand même des forces de rappel aux États-Unis. Hein. Donc, je rappelle quand même que le président américain a quand même un congrès et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tarifs douaniers qu'il faut faire passer par le congrès. Pour ça, qui sera aussi très important dans ces élections américaines, c'est où va être le pouvoir au Congrès. Hein, on réélit entièrement la Chambre, un tiers du Sénat. Bon, on sait que le Sénat il va rester chez les Républicains. Ouais. On verra en fait pour la Chambre des représentants. Mais c'est vrai qu'il peut voter sur des tarifs douaniers importants en évoquant une compétition de la Chine qui est au détriment des règles internationales. Il peut invoquer une menace également sur la sécurité nationale, mais en dehors de ça, il va quand même être très très limité et challengé. Il ne peut pas tout faire non plus. Donc attention, entre les effets d'annonce et ce qu'il peut réellement faire, il y a quand même une démocratie aux États-Unis, il y a quand même des institutions. Donc Trump ne peut pas en faire ce qu'il veut non plus sur les tarifs douaniers. Mais il est certain que le marché va beaucoup, beaucoup se centrer en fait sur ce narratif actuellement. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul aussi, hein, parce qu'il y a, on va dire, ce court terme, les
oui, quelques semaines avant. Oui, il y aura un après 5 novembre.
Oui. Non, je ne sais pas si ce sera le 5 novembre, sinon, ou s'il va falloir attendre. Moi, je dis toujours, la macro et les fondamentaux des entreprises reprendra un petit peu
le cycle.
Le dessus ouais. aussi. Voilà.
Bon. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas. Oui, on revient à la discussion précédente, mais le cycle économique américain reste quand même, pour l'instant, sur une dynamique porteuse, quoi.
Bah, il est très très bon, hein, prévision de croissance, même sur 2025, sur la croissance américaine, et aux alentours encore de 2%.
Ouais, ouais, c'est ça. 2,2, là, c'est les dernières projections du FMI pour 2025, alors, États-Unis, 2,2.
Optimiste, ouais. Mais. Donc on reste toujours sur l'exceptionnalisme américain. On reste encore sur des investisseurs qui, et notamment les investisseurs américains qui restent quand même très investis sur leur marché, à commencer par les entreprises elles-mêmes. Ce chiffre qui est quand même incroyable, hein, je le disais encore ce matin, c'est que sur l'année 2024, le chiffre global des rachats de titres aux États-Unis, c'est 1 000 milliards. Ouais. Jamais vu. Ouais. Il va y avoir 100 milliards qui vont être exécutés ce mois-ci au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois où le programme
le plus important,
dans l'année sur l'entreprise, ouais. parce qu'ils sont peut-être un petit peu en retard et donc il faut accélérer les rachats. Et puis l'investisseur privé américain, le retail, est toujours en manette. Hein.
Ouais. Sur la logique de tarifs, hein, je sais pas, je vois des estimations. Je crois que le FMI estime que si on est vraiment dans un monde où les tarifs fleurissent à nouveau, ça peut coûter jusqu'à 0,6 points de croissance. Croissance mondiale annoncée à 3,2% encore l'an prochain. Avec en plus en Europe un peu de consolidation budgétaire ici et là, qui risque quand même d'amputer là aussi la dynamique de croissance. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut se retrouver avec un scénario macro 2025 complètement chamboulé par l'élection du 5 novembre, de ce point de vue-là, Christian ?
Ah oui, ça fait partie des incertitudes. En gros, il y a deux grosses incertitudes pour l'année prochaine. Hein. Ça sera ce qui va se passer au niveau des politiques budgétaires. Et ça, c'est. On oublie la monétaire, on passe maintenant au budgétaire. Ouais, ouais. Parce que le monétaire, quoi qu'il arrive, on n'a pas trop de risques, à part véritablement s'il y avait une reprise de l'inflation très forte aux États-Unis. Et puis derrière, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on mesure mal aussi comment va réagir l'économie américaine à toutes ces politiques budgétaires aussi, et européennes aussi, hein, mais ça, c'est sur un autre angle. Mais aux États-Unis, je vous prends un exemple. Là, il y a une enquête qui a été faite par la Fed de Richmond, hein, qui nous indique que 30% des entreprises américaines ont gelé leurs investissements, leurs embauches, en attendant les résultats des élections, et elles réagiront en fonction. Alors, dans le bon côté des choses, on pourrait dire, ça peut rebondir très vite, parce que ces 30% peuvent de nouveau embaucher et investir s'ils sont contents, mais à l'inverse, ce qui les inquiète beaucoup, c'est que la hausse des droits de douane ne pourra pas être répercutée aux consommateurs. Et ça, c'est la grosse différence qu'on a par rapport à il y a quelques mois. Il y a quelques mois, quand on avait des hausses de coûts, on le passait aux consommateurs, et on voit que maintenant, ça ne passe plus du tout.
C'est très différent.
Alors, c'est vrai que le consommateur, il a touché le chèque du Trésor et qu'il a accepté les hausses de prix. Il avait des cartes bancaires, c'était facile d'utiliser la carte bancaire, et maintenant ils ont des taux d'intérêt à 20% sur leur carte bancaire, et donc c'est très difficile de creuser encore plus l'utilisation des crédits à la consommation. Donc
le levier du pricing power est épuisé.
Il est épuisé, donc ça veut dire que derrière ces politiques, on peut avoir des réactions assez étonnante qu'on n'anticipe pas de l'économie américaine, parce que si véritablement il y a un durcissement et une hausse des coûts pour les entreprises, certaines entreprises vont se dire je vais commencer à licencier, je vais commencer à réduire mes effectifs, et là on pourrait avoir paradoxalement un double effet
récessif.
De l'inflation et de l'autre récessif,
et oui.
parce qu'on aurait le marché du temps bas. Alors bon courage pour la Banque Centrale Américaine. Donc c'est juste pour vous dire un petit exemple de comme quoi la politique budgétaire, alors en Europe,
combien ça peut perturber.
En Europe naturellement ça sera en fonction de l'impact du durcissement des politiques, mais ça viendra aussi en supplément comme élément. Moi, je ne crois pas du tout à notre cher gouvernement français qui nous dit qu'il peut lever les impôts et que ça ne changera rien dans la prévision de croissance qu'on a pour l'année prochaine. Donc forcément, on le paiera aussi.
Consolidation budgétaire pour les pays en Europe qui le font. Bon, j'ai vu des estimations jusqu'à 9 points de PIB en moins.
Hein. Grosso modo,
sur l'ensemble de la zone.
Si tout est fait comme ce qui est annoncé à peu près en termes de hausse d'impôts, on peut estimer qu'on aura, si tout va bien, une croissance nulle en France l'année prochaine. Hein. Je pense qu'on est plus ce scénario-là que sur le 1% de croissance. Donc, on est clairement sur des effets qui vont quand même entacher un petit peu nos prévisions pour l'année prochaine et qui ne sont pas forcément encore totalement intégrés, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments de budget, on n'a pas tous les éléments de réponse. En gros, on a trois éléments qui peuvent tout changer pour l'année prochaine. Est-ce que la Chine redémarre réellement ? Bon, ça, chacun.
On va en discuter.
Est-ce que, qu'est-ce que donneront les élections en termes de politique budgétaire aux États-Unis et quelle sera l'ampleur des durcissements de politique budgétaire en Europe? Eh bien, ces trois éléments aujourd'hui, on n'a pas de visibilité encore pour nos projections 2025. C'est pour ça que c'est très difficile à faire pour l'année prochaine en termes de projections économiques.
D'accord avec le comportement des entreprises là, face à l'idée ou l'hypothèse d'une résurgence inflationniste, sans même aller jusqu'à une inflation qui remonterait jusqu'à à 10%. Adrien, mais d'accord avec l'idée que le levier du pricing power a été épuisé dans la première vague d'inflation et que le consommateur, pour plein de raisons, supportera plus de hausse de prix à l'avenir. Enfin, oui. Dans un avenir proche.
Oui, en tout cas, effectivement, c'est un levier qui a extrêmement bien fonctionné. Après, il y a beaucoup d'industries dans lesquelles, en fait, ça a recomposé la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est pas forcément que des arbitrages par rapport à des produits ou des matières premières qui vont être imposées par les tarifs douaniers. Je prends la chaîne de valeur du semi-conducteur. Aujourd'hui, elle s'est complètement refondée autour d'un axe, américain-japonais qui a complètement changé la donne. Pourquoi est-ce qu'ASML a publié des très mauvais chiffres? C'est parce qu'ASML a perdu pas mal de parts de marché par rapport à d'autres fabricants de machines, soit américains, soit japonais, qui ont réussi et qui sont en dehors des restrictions sur le déploiement de certaines technologies. Donc je trouve que les entreprises se sont très très bien adaptées. Elles sont effectivement un peu le pied sur le frein par rapport aux élections. Ce qu'elles font traditionnellement, quand on regarde ce qui se passe les 6 mois précédant une élection, toujours on a un petit ralentissement de la vague d'investissement. On était sur un rythme de capex extrêmement important,
aux États-Unis,
en très forte accélération alors sur le remanufacturing, la relocalisation. C'était vrai aux États-Unis, c'était vrai aussi au Japon, dans d'autres zones géographiques où il y avait une vraie réaccélération. Donc je ne suis pas étonné qu'il y ait un petit coup de frein, mais je trouve que les entreprises se sont déjà préparées et adaptées parce que l'arrivée de Donald Trump commence à être probable et que la recomposition effectivement des chaînes de valeur est complètement en cours.
Ouais. Sur la Chine, Alexandre, vrai ou faux signal? Il y a eu un signal de marché. Est-ce qu'il peut être suivi? Est-ce que ça peut devenir aussi un signal macro pour la suite, au moins pour l'histoire de 2025?
Écoutez, on a plutôt une vue assez positive de ces dernières mesures en fait en Chine. Je pense qu'il faut vraiment le prendre cette fois-ci au sérieux. Dit autrement, on avait cette situation 2023 où chaque mesure incrémentale décevait le marché et que chaque rebond en fait sur le marché chinois, les investisseurs en profitaient pour alléger ou en sortir. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sorti de la Chine. Je pense que le monde entier aujourd'hui n'est plus investi en Chine, sauf une partie de l'Asie et des Chinois. Là, aujourd'hui, quand on voit les effets d'annonce, je pense qu'il y a un changement fondamental dans ce que moi, j'ai essayé de nommer les Chinomics, en référence à Abenomics, ce qu'a fait le Japon en 2014 avec son premier ministre, avec les fameuses trois flèches. Donc là, on a eu la première, la flèche monétaire, qui est relativement puissante et qui est vraiment cette fois-ci dans le but de restaurer la confiance. Peut-être différent, en fait, dans le message aujourd'hui, c'est pas forcément d'augmenter la croissance, c'est d'abord restaurer la confiance. Et puis, il y a cet accompagnement fiscal. Donc, on a commencé à avoir les premières mesures. Alors, je pense que la communication est graduelle. On sent bien que les autorités chinoises...
C'est le compte-gouttes, la stratégie du compte-gouttes.
Non, je ne pense pas que ce soit du compte-gouttes. C'est vraiment, on va les détailler au fur et à mesure, qu'on va les mettre en place. Et on ne va pas un effet d'annonce, on fait 10% de PIB one shot. Non, il y a vraiment cet aspect, je veux redonner confiance.
Quelque chose de maîtrisé, donner l'impression quelque chose de maîtrisé, de contrôlé.
Et puis surtout, redonner confiance en recréant de la richesse. Parce qu'on sait que les ménages chinois ont perdu beaucoup de richesse par l'immobilier. Ils en étaient beaucoup trop dépendants. Donc il faut recréer de la richesse, de la confiance, créer de la richesse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures aujourd'hui qui sont directement dirigés vers le marché boursier. Je redonne ce chiffre qui est quand même phénoménal au niveau de la Chine. Ils ont donc donné la possibilité aux entreprises chinoises, institutions chinoises, d'aller emprunter jusqu'à 70 milliards pour faire des rachats de titres.
Oui.
Des rachats de titres. Donc même en Chine, on commence à procéder à des rachats de titres. Et on a eu des annonces, par exemple, le vendredi, il y a déjà 20 grandes entreprises chinoises qui ont dit « Ok, on va commencer à prendre cette facilité et procéder à du rachat. »
Ça, c'est nouveau. Dans le paysage chinois, c'est nouveau, ça.
On va dire que en termes de mesures capitalistes, c'est vraiment la mesure la plus extrême de ce qu'on opère et qui est très décriée, même en France. Vous voyez, on va faire des taxes aujourd'hui pour leur rachat de titres. La Chine va même dans cette direction-là. Donc, il y a vraiment une vraie volonté de créer un floor, en fait, un plancher sur le niveau des valorisations des entreprises chinoises, redonner confiance, et c'est là aujourd'hui où on a cet aspect fiscal qui rentre en compte. Maintenant, il manque quelque part cette troisième flèche qui est plutôt des réformes un peu plus structurelles, notamment l'inclusion financière, le développement de l'épargne, qui manque crucialement encore sur le marché chinois pour créer finalement une vraie culture d'investissement sur le marché.
Et quand vous dites que vous êtes positif, ça veut dire que vous attendez cette troisième flèche ou que les deux premières vous suffisent ?
Je pense qu'aujourd'hui, ça a enclenché. Je pense que c'est difficile d'aller contre le mouvement. Enfin, nous-mêmes, chez Indosuez, on est relativement positif depuis un bon bout de temps sur les émergents, avec beaucoup de frustration quand même depuis quelques temps. Aujourd'hui, ces mesures, c'est bon pour la Chine, mais c'est bon pour le reste de l'Asie. Donc en fait, on voit tous les émergents qui commencent à redécoller. On a même vu des flux sortants du Japon, hein, parce qu'on voyait à une certaine époque, les gens
utilisaient les investissements plutôt sur le Japon. China. On investissait tout ce qui n'était pas Chine en Asie, le Japon, l'Inde, etc.
Il y avait l'Inde, mais ça c'est vraiment une histoire à part. Hein. Je pense que personne n'a envie de sortir dans l'Inde. Donc aujourd'hui, si on veut se réexposer sur les émergents, qu'est-ce que j'ai en portefeuille que je pourrais arbitrer ? Je vais peut-être sortir du Japon, qui a très très bien performé, et je vais peut-être mettre un peu plus d'émergents. Alors, il y a beaucoup de flux sur les actions chinoises, mais c'est des flux qui viennent des fonds domestiques, ça ne vient pas des flux internationaux. Les fonds émergents, qui globalement sont encore très sous-exposés à la Chine en grande majorité, ils vont devoir réduire en fait cette sous-pondération, donc ça va créer une opération vague. Ce qu'on n'a pas encore vu, par contre, c'est un retour au sens général des investisseurs sur les fonds émergents, et notamment les investisseurs américains qui restent encore en retrait.
Mais ça, vous l'anticipez. Il y aura ce retour de flux à un moment possible vers la Chine.
Si on y réfléchit bien, les émergents, c'est 11% des indices globaux. Donc, vous êtes investisseur américain et vous voulez commencer à diversifier en dehors des États-Unis. Est-ce que vous allez sur l'Europe ? Bon, peut-être pas, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes en Europe. Est-ce que vous allez sur les émergents où vous avez 50% de décote dans les valorisations et vous avez deux fois plus de croissance des bénéfices? Vous n'allez pas aller forcément sur la Chine en direct, mais vous allez prendre des émergents et vous embarquez 20% de Chine à l'intérieur.
Quitte à faire de la value, autant faire des émergents.
Je reviens sur mes émergents, mais je ne vais pas spécifiquement sur la Chine.
Est-ce que la Chine va arrêter d'exporter de la déflation? Est-ce que c'est ça l'histoire des prochains mois de 2025, après 12 mois de déflation en Chine? Est-ce que cette mécanique-là peut être stoppée?
Mais en tout cas, c'est ce qui a fait, à mon avis, le plus réagir le gouvernement chinois. Parce que encore en juillet, ils nous vendaient une reprise par les exportations. L'idée était relativement simple. Je stimule mon industrie, je les aide. Alors, sous le plan...
Il faut saturer les capacités de production.
Je les aide, ils augmentent leurs exportations. Du coup, ils embauchent et du coup, ça va relancer la demande intérieure. Donc, c'était pas du tout l'idée. Je résous mes problèmes internes, je stimule ma demande intérieure. C'était l'idée. Je relance par l'exportation et on voit que ça atteint les limites. Ouais. Et les principales limites, alors, c'est peut-être le fait qu'on met des barrières douanières, mais je pense que c'est pas ce qui a fait le plus peur au gouvernement chinois, c'est le recul des profits des entreprises chinoises. Et ça les a beaucoup inquiétés, parce que les entreprises chinoises n'ont pas réussi à exporter autant que ça. Elles ont des taux d'utilisation et de capacité de production très très basses. Alors ça pénalise lourdement l'Allemagne, puisqu'ils leur vendent plus de biens d'investissement parce qu'il n'y a pas de nécessité pour l'instant. Et derrière, ils se sont aperçus que les profits baissant, un mouvement de déflation s'installant, là ils étaient dans un risque majeur sur leur économie. Et
que ça à la japonaise pas. Quoi.
Voilà, alors donc je pense que c'est ça qui les a fait changer de stratégie. C'est pour ça que je suis assez d'accord, il y a un changement profond de stratégie.
Alors, à prendre en compte.
À prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet d'annonce seulement, il y a un changement profond de stratégie. Et je pense qu'un des éléments qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, c'est le fait que le gouvernement s'est engagé à atteindre son objectif de croissance, quel qu'en soit le prix.
Whatever it takes. Whatever it takes. Copyright Mario Draghi, parce que ce terme a été beaucoup utilisé depuis. Mais le vrai whatever it takes, ça reste Mario Draghi, juillet 2012.
Oui, mais. Il y a un peu de ça quand même. Ouais. Dans leur communication, il y a un peu de ça. Et donc, ça veut dire, ils feront des chiffres qui montrent qu'il y a 5% de croissance.
Mais on ne se met pas en face.
Mais on ne se met pas en face. Parce qu'ils ont quand même de la flexibilité budgétaire nécessaire. Par contre, peut-être, l'élément qui déçoit les marchés, c'est qu'ils n'ont pas dit je vous dis tout ce que je fais pour le faire. Quoi. Je sens qu'ils vont y aller pour vraiment atteindre cet objectif. Ils font tout pour atteindre cet objectif. Ouais. Mais ils ne veulent pas nous annoncer à l'avance combien ils vont mettre, combien ils vont faire, parce qu'ils ne veulent pas non plus faire une surréaction de l'économie. Et c'est pas ce qui est recherché.
Ouais.
C'est fait nos 5% de croissance, on fera autant de déficit que nécessaire pour faire les 5%. La Banque centrale est déjà prête encore à baisser les réserves obligatoires. Ils nous ont dit vendredi, si nécessaire au quatrième trimestre, si on voit qu'on va pas atteindre, on fera. Donc ça, je pense qu'on peut acheter ça. Par contre,
mais ils veulent pas recréer la bulle.
Voilà, ils veulent pas recréer.
Je crois que le gouverneur de la Banque centrale chinoise,
une réaction de l'économie derrière qui pourrait faire du 10% et puis derrière rechuter aussitôt quoi.
Il a dit on veut une croissance économique stable et un rebond modéré des prix. Voilà. Tout est dans le modéré des prix. Ils ne veulent pas basculer non plus dans l'excès inverse.
Ils vont parier contre eux.
Qui a été... Ah bon.
C'est là où je n'y crois pas.
Non, non, j'entends bien. Sur la Chine, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact alors, sur les marchés globaux? Est-ce que c'est une histoire de 2025? Et est-ce que ça peut être une histoire pour des entreprises européennes qui ont beaucoup souffert, beaucoup, qui ont beaucoup été pénalisées par ce facteur chinois ces dernières années, Adrien?
Alors, oui, je pense que ça peut être une histoire 2025. Je pense quand même que dans la volonté dégrainer progressivement les réformes, il y a aussi l'attente de savoir qui sera de côté administration américaine, parce que ça change quand même un peu la donne entre même si, j'allais dire, l'administration Biden comme l'administration Trump ont progressivement monté les barrières douanières vis-à-vis de la Chine, je pense qu'ils ont quand même plus à craindre d'une administration républicaine qu'une administration démocrate. Donc je pense que la puissance du bazooka dépendra aussi un peu de qui est côté américain. Après, les moteurs j'allais dire d'innovation, de différenciation et d'export sont pas là. La vague de l'IA, qui est la nouvelle grande innovation qui est en train de se déployer sur la planète, pour l'instant, la Chine est en dehors du jeu.
À ce point
Ils ont en tout cas des difficultés à accéder aux matières premières, aux puces de Nvidia, même si Nvidia en fabrique certaines à destination de la Chine. Donc on sent bien que pour l'instant, en tout cas, ils sont en retard. Toutes les grandes réussites industrielles sur le véhicule électrique, toutes les technologies liées à la transition écologique, les barrières douanières sont là et pour l'instant, ils ont du mal à les exporter aux États-Unis, progressivement l'Europe, mais aussi des barrières douanières. Donc j'allais dire, l'attrait pour le marché chinois reste très centré sur l'indice de la tech chinoise. Hein, c'est celui qui a été historiquement le plus volatile et qui a eu le mieux performé. On a du mal à voir quels seraient les composants aujourd'hui, les industries qui naîtraient de cette innovation et qui permettraient à la Chine de retrouver une attractivité. Je rajoute à ça que je pense que les investisseurs internationaux et particulièrement les investisseurs américain considère aujourd'hui que la Chine est quasiment non investissable. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant de l'entrée de la Chine dans l'OMC jusqu'à 2020, j'ai du mal à le voir se répéter. Et l'attrait, de manière générale, pour la Chine, c'est aujourd'hui un pays, qui est d'un point de vue militaire, autrement plus armé que ce qu'il était avant, avec une volonté d'expansion géopolitique, et qui change un peu la donne sur la perception qu'on a en tant qu'investisseur américain, que les fonds de pension américains, par exemple, ont vis-à-vis de la Chine. Donc je ne vois pas le même attrait pour les investisseurs internationaux d'investir sur la Chine.
On a politisé l'investissement en Chine, d'une certaine manière. Ce n'est pas juste l'idée d'une embellie conjoncturelle qui va complètement modifier cette façon de penser des investisseurs globaux aujourd'hui.
La Chine, depuis de nombreuses années dans mes portefeuilles, c'est un sujet de discussion permanent avec les investisseurs qui se disent un minimum responsable ou qui ont ce sujet en tête dans leurs allocations. Donc voilà, après que 2025 soit une fenêtre d'opportunité, oui, c'est possible. De nouveau, je pense qu'il y a encore quelques questions qui sont sur la table, et notamment qui sera à la tête de l'administration américaine.
Mais il y a plusieurs plans possibles, j'imagine, peut-être pour l'après 5 novembre côté chinois. Mais quand vous avez vu le luxe rebondir de 30% parce que Pékin multiplie les annonces, qu'est-ce que vous vous dites? Le marché fait fausse route. D'ailleurs, on a vu que les valeurs du luxe ont très vite rendu la performance. D'accord.
Oui, moi je pense, enfin pour le coup, sur le
pari. C'est pas le bon play. C'est pas cette manière-là qu'il faut jouer la Chine.
Toutes les industries européennes très exposées à la Chine aujourd'hui sont soit très dans le manufacturing, et on l'a dit tout à l'heure, la relocalisation, le remanufacturing se fait au détriment de la Chine en faveur des États-Unis, du Japon, de la Corée et peut-être même de l'Inde, qui devient une plateforme potentielle de production pour les pays occidentaux. Et la consommation, il y a un vrai message de favoriser la consommation locale. Donc j'ai du mal à voir en quelle mesure ça va être un soutien pour des industries européennes qui ont très longtemps bénéficié du débouché marché chinois. Et aujourd'hui, j'ai du mal à voir quel va en être le driver et le moteur.
Un mot des résultats d'entreprise. Là, vous évoquiez l'IA. Je veux bien qu'on dise un mot de SAP. C'est quand même peut-être aujourd'hui la plus grosse tech européenne. Alors, je crois que ça se bataille à quelques milliards près entre ASML, après le décrochage d'ASML, et SAP aujourd'hui, qui a été un rouleau compresseur boursier tout au long de l'année. Ça doit prendre 30% ou peut-être plus au plus haut historique sur l'ensemble de cette année. Est-ce que c'est le signe que la dimension logicielle dans la grande thématique IA prend de plus en plus de place? Il y a eu les GPU, l'infrastructure, l'énergie qui va avec. Est-ce que le marché est en train de basculer vers d'autres dimensions autour de l'IA?
Oui, bien sûr, le côté applicatif est certainement la prochaine vague de déploiement de l'IA. C'est effectivement, est-ce que dans tous nos outils quotidiens, dans la gestion d'une entreprise, on va pouvoir déployer effectivement des solutions intégrant nativement l'IA?
C'est certain. Et on a suffisamment de pistes, et j'allais dire même un peu plus que de pistes, pour se dire que oui, il y a des applicatifs qui vont être monétisés, qui vont être rentables, enfin qui vont pouvoir permettre de créer de la rentabilité pour ceux qui déploient ces applications.
Non, la question est encore sur la table. C'est un peu la question qui a animé les marchés dans le courant du mois de juillet, où s'est posée la question de la monétisation et de tout tous ces investissements, de la course menée par les 5 grands leaders de la tech qui pour l'instant visent à avancer leur pion et à, j'allais dire, matérialiser un leadership, mais dont la monétisation viendra dans les années à venir.
Donc c'est encore un acte de foi, quoi.
Pour l'instant, oui. Et on attendait beaucoup, on en avait parlé ici, je crois, il y a un mois, le lancement de l'iPhone 16,
oui.
Qui était celui intégrant des premières solutions d'IA. Bon, pour l'instant,
pas pour nous,
c'est
quoi,
pas vraiment là.
Non, je crois qu'on n'a pas d'IA dans
la fois,
l'iPhone 16.
Les applicatifs d'IA sont un peu décevants et les ventes de l'iPhone sont plutôt décevantes. Donc oui, ça reste une question ouverte. Mais oui, le sens de l'histoire, c'est que cette technologie se déploie par les applicatifs et par les logiciels. Et effectivement, SAP a plutôt bien réussi sa migration vers le cloud. Hein. C'est quand même une entreprise qui a été beaucoup challengée entre 2020 et 2022 avec tout nouveau management, très jeune, dont on attendait, le marché attendait plus grand-chose. Et l'exécution est effectivement remarquable depuis 3 ans. Donc voilà, c'est un retour sur le devant de la
scène. Il y a un retournement.
Je ne pas encore que c'est un leader de l'IA.
Non. Mais partant effectivement d'un positionnement qui était un peu dépassé. Exactement. Il y a quelques années maintenant. Sur l'IA, les logiciels, alors, SAP.
Oui, alors après, c'est aussi...
SAP versus ASML.
On n'a pas beaucoup de choix d'investissement en Europe sur ce secteur-là. Donc, c'est vrai que les gérants n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas jouer sur Microsoft et que vous êtes obligé d'investir en Europe et vous voulez jouer la thématique de l'IA, vous êtes un peu obligé de surpayer peut-être ces valeurs-là. ASML était très clairement survalorisé, mais parce que c'était le seul moyen de jouer le Nvidia européen, entre guillemets. Qu'on voit et on a vu que ce n'était pas la même chose.
Ok, ASML se retrouve pénalisée parce qu'elle est la seule valeur, en fait, à pouvoir apporter...
On l'a payé très cher parce qu'on ne pouvait pas...
De l'IA dans les portefeuilles européens, quoi.
Et clairement, on s'est aperçu que finalement, il y avait aussi d'autres problèmes, d'autres problématiques qu'on avait un petit peu sous-estimées derrière tout ça. Et je pense que SAP, c'est un peu la même chose. Oui, SAP profite très clairement de l'IA, mais ça reste une petite partie de son activité. Et ce n'est pas du tout la même chose par rapport à un Amazon, Amazon Web Service, je parle, et puis ou un parti Microsoft qui ont nettement, ou même à son niveau, au niveau de Facebook. Donc c'est pas du tout la même chose quand on investit sur ces valeurs américaines qui sont beaucoup plus exposées, beaucoup mieux pointues sur ce segment-là, qui profitent beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Moi, par exemple, je vous prends l'exemple de Meta. Là, on a quand même, au moins, vous y croyez ou vous y croyez pas, de l'intelligence artificielle, mais au moins Meta a montré que par l'intelligence artificielle, ils contournaient le gros problème qu'ils avaient eu, c'est-à-dire que l'interdiction de tout ce qui était tracking, notamment via Apple, et maintenant ils ont un modèle d'intelligence artificielle qui permet de cibler en fonction de votre comportement que vous avez sur les réseaux sociaux, et donc ils savent votre âge, votre sexe et tout ça, en fonction de ce que vous regardez. Oui, mais il n'a plus besoin de vous traquer, il n'a plus besoin de savoir qui vous êtes.
D'accord.
Grâce à l'intelligence artificielle, d'accord, il peut de nouveau cibler la publicité. Donc on peut dire que pour Meta, l'intelligence artificielle a un élément, parce que tout le monde...
Il y a une application.
Voilà, il y a une application.
J'entends.
Et qui rapporte.
J'entends.
Puisque ça lui permet de cibler. Et ça, c'est même un avantage aujourd'hui, parce que tout le monde pouvait mettre un petit tracker sur votre ordinateur avant, et parce que c'était facile, c'était pas coûteux. Là, maintenant, il faut avoir tout le background de cette intelligence artificielle. Et donc, Meta dit, voilà, mes concurrents, j'en ai plus parce que je suis en train de les écraser grâce à ça. Ouais. Donc, c'est quand même un investissement qui est porteur. Donc ça, avant qu'en Europe, on ait des sociétés qui offrent la même chose, on voit que ça sera très compliqué. Donc,
bon, après, il y a d'autres manières. L'énergie Schneider, oui, c'est peut-être une entreprise IA.
C'est le même niveau
Schneider.
Que là vous jouez
Vistra est la première performance boursière du S&P 500. Là, Vistra, ils font de l'énergie propre et du nucléaire.
Vous jouez la thématique Nvidia, c'est-à-dire que vous avez soit la thématique, je joue l'investissement pour mettre les centres de données, la capacité de calcul, et après vous avez la deuxième phase qui sera la thématique, je joue les éditeurs de logiciels qui profitent de cette capacité de calcul pour le monétiser.
Entends.
Et c'est là ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça, on est encore dans un point d'interrogation, est-ce que ça sera rentable? Mais de toute façon, la première partie, elle est là, parce qu'il y a des investissements massifs. Donc vous pouvez jouer déjà le fait qu'on vend les pelles. Après, on verra si on trouve de l'or.
Ouais.
Ça sera autre chose.
Vistra, plus 250% depuis le 1er janvier, alors que Nvidia ne fait que plus 180%. C'est pas la même taille d'entreprise. Hein. Je pense que Vistra doit être 100 fois plus petit que Nvidia aujourd'hui. Comment on se positionne en termes d'investissement là, pour le compte des clients privés aujourd'hui, Alexandre? Est-ce qu'on reste dans une logique pro-risque ou est-ce qu'on a envie d'être exposé, d'organiser ou de réorganiser les portefeuilles peut-être aujourd'hui?
Ouais, nous restons effectivement aujourd'hui chez un dossier plutôt pro-risque, dans un scénario qui reste très constructif pour la macroéconomie. Hein. Le but du jeu pour des clients privés n'est pas non plus de débrayer et de rembrayer à quelques semaines près. Hein, donc on essaie de garder le cap dans ce marché. Il faut garder un petit peu la tête froide. Hein.
Vision.
Je pense que l'histoire a montré qu'on peut avoir effectivement beaucoup de volatilité. En fait, déjà, tous les pronostics ont été déjoués. Tout le monde avait dit septembre-octobre, la saisonnalité est très, très mauvaise. Ça va passer sur les marchés. Il y aura la volatilité sur les élections. C'est l'inverse qui s'est passé. On a un petit peu ce phénomène aujourd'hui, et moi, je le sens même sur certains clients. Quand le marché commence à baisser, ils disent « Ah, enfin, c'est normal que ça baisse. » Et puis, quand il commence à remonter, ils disent « Mais... j'en ai pas assez. »
C'est pas possible, donc, ça remonte déjà.
Ça remonte déjà. Donc,
cet été, la recovery en V du marché a été spectaculaire.
Il fallait m'attraper.
Hein. Ah oui,
donc, il fallait être là le 5 août. Très, très court. D'où le fait que quelquefois, finalement, la décision de rien faire et de garder son cap, c'est peut-être finalement la meilleure. Maintenant, il faut garder effectivement toujours en tête que sur les élections américaines, il y aura certainement beaucoup de chamboulements au niveau sectoriel. Ça peut être plus que la direction du marché, c'est plus la décomposition sectorielle. Et puis c'est surtout aussi entre les grandes capis et les petites capis. Ça, c'est un deuxième axe que nous avons pris en fait sur nos gestions de portefeuille. C'est pas qu'on a sorti ce qu'on avait sur les grandes capitalisations, c'est dire qu'est-ce que j'ai en portefeuille aujourd'hui que je n'ai pas ou qui est sous-évalué et qui a un potentiel de rattrapage. On sait que les petites capitalisations aux États-Unis sont en très très fort des cotes. Alors, il y a une raison aussi, il y a 40% de la cote qui n'est pas profitable, mais vous avez quand même beaucoup de valeurs de qualité au sein des petites capitalisations, et nous pensons qu'elles sont attractives, et on voit une diffusion de cette performance aujourd'hui. Donc c'est une façon de jouer la diversification au sein des États-Unis en repondérant peut-être un petit peu les secteurs, les petites capitalisations, et nous en penser que la meilleure diversification après les États-Unis, ça reste...
C'est les émergents.
Donc on a ce moteur émergent qui est en train de s'allumer. Il nous manquait l'État Chine.
On arrive à la fin de l'émission, on n'aura pas beaucoup parlé de l'Europe avec tout ça. La logique action, je sais pas, peut-être que c'est bon signe pour demain, j'en sais rien, si plus personne en parle. Peut-être qu'à un moment,
une bonne surprise.
Le Stoxx 600 est au plus haut historique.
Malgré tout.
Qu'est-ce que logique action, est-ce qu'il y a des choses qui changent là, un peu en profondeur et qui méritent d'être réajustées peut-être dans les stratégies
Non, vous avez parlé du nucléaire, c'est un sujet.
Ah, nucléaire
qui malheureusement quand même est en termes de non-côté d'entreprise avec de la vraie rentabilité peu européen. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a beaucoup des nouvelles aux États-Unis aussi, avec toutes ces technologies autour des réacteurs nucléaires.
C'est Google, je crois, qui va produire, fabriquer lui-même ces petits SMR, je crois.
Avec Kairos.
Oui, non, mais je vais très vite dans l'histoire. Je vais très vite dans l'histoire, mais...
Le premier est prévu pour 2026. C'est une technologie General Electric Toshiba, donc spécialiste historique du nucléaire. Il va être dans l'Ontario. On verra si ça fonctionne. Ouais. Mais ça arrive.
Les GAFA vont relancer le nucléaire dans le monde.
Ça répond à un besoin de demande d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet de centre de données dont la première contrainte, c'est s'assurer que la production électrique soit au rendez-vous. C'est d'ailleurs ce qui fait certainement l'attractivité de l'Espagne aujourd'hui en Europe, qui a une capacité de production électrique extrêmement importante avec des panneaux solaires.
Des projets de data center qui se comptent en dizaines de milliards d'euros en Espagne aujourd'hui.
L'Espagne est devenue extrêmement attractive. Le marché espagnol est à plus de 20% depuis le début de l'année.
Booming.
Ouais, exactement. C'est devenu un pays où on a eu fait un peu d'efforts, mais en plus un peu d'attractivité industrielle.
Un exemple à suivre, c'est le bon élève espagnol en Europe. Et juste pour conclure sur l'énergie, on me donnait ce chiffre. Quand Microsoft a contracté sur 20 ans pour récupérer l'énergie produite par la centrale de Three Mile Island, qui va être ouverte pour cette occasion, ils ont contracté, coût de transmission compris, à $130 du mégawatt-heure. Aux États-Unis, le prix de marché, c'est entre la côte Est et la côte Ouest, est à 40, 50, $60. Ils payent 2-3 fois le prix du marché pour accéder à cette énergie propre pendant 20 ans.
Propre et puis stable, surtout.
Eh bien, bien sûr. On connaît les avantages du nucléaire, je crois.
C'est ça qui est joué de plus en plus.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adrien Dumas, Mandarine Gestion, Christian Parizeau, Altair Economics et Alexandre Drabovitch, Indosuez Wealth Management.